parmi les outils de développement environnemental.
Donc aujourd'hui, l'objectif, c'était de vous présenter comment l'analyse du cycle de vie, elle pouvait être utilisée comme support à l'éco-conception. D'accord ? Donc avant de commencer, je voulais poser la question, pourquoi on va intégrer la dimension environnementale dans l'approche conception ? On a plusieurs démarches, on a la responsabilité sociale des entreprises, on a les systèmes de management environnemental, etc. Pourquoi on va se poser la question d'intégrer ces critères environnementaux et d'autres critères dans la conception? Est-ce que vous avez des idées? Là, il y a beaucoup d'informations qui étaient dites ce matin. Vous avez quelques éléments. Ok. Donc, je veux juste prendre trois indicateurs pour vous montrer rapidement l'intérêt et pourquoi la conception fait un point névralgique de l'intégration de l'environnement au sens large au niveau industriel. Donc, je prendrai par exemple l'indicateur par rapport à l'empreinte écologique. Vous connaissez cet outil. C'est un outil surtout de sensibilisation. Donc, certains d'entre vous connaissent cet outil. Vous avez entendu parler de cette empreinte écologique? Pas vraiment? Si?
Sur la veine, il y a un moyen d'évaluer son impact écologique et son rapport. Combien on consomme de notre planète? Je crois que c'est sur la veine.
Tout à fait. C'est surtout une approche de PNF. Mais justement, c'est quelle surface il nous faudrait pour vivre tel qu'on est, donc avoir développé nos produits, s'alimenter, se transporter, absorber les déchets qu'on fait. Donc normalement, si tout le monde vivait comme un Français, on aurait besoin de trois planètes. D'accord ? Le deuxième indicateur, c'est...
Sauf
si on est américain. Non, le deuxième indicateur, c'est qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, etc. Donc, les effets, les émissions des gaz à effet de serre. Donc, si on ramène ces chiffres-là à la population française, et notamment à un Français, quand on voit la répartition des impacts par rapport à cet indicateur, on se rend compte que 52% de ces émissions elles sont dues à l'extraction, la fabrication, l'utilisation, la distribution et la fin de vie de nos produits, de nos produits qu'on consomme tous les jours. Et le troisième indicateur, donc ça vous connaissez, il y a beaucoup de publicités qui sont faites par l'ADEME ou d'autres. Aujourd'hui, on trie tous ou presque tous nos déchets. Il faut savoir que pendant les 30 dernières années, nos déchets, nos poubelles, ils ont multiplié par deux. Donc ça, comme il disait, c'était à cause de l'obsolescence programmée des produits. On fait de plus en plus de produits jetables, etc., etc. On a aujourd'hui, dans un ménage moyen, on a entre 2000 et 3000 objets, alors qu'il y a 100 ans, on avait entre 200 et 300 objets. Donc là, on est vraiment dans une société de consommation. Donc par rapport à ça, donc là, je vous démontre pourquoi on va intégrer cette dimension environnementale dans la conception. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter très rapidement des notions de l'éco-conception pour qu'on arrive à la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'évaluation environnementale et l'environnement avec l'outil la méthodologie d'analyse de cycle de vie. Tout d'abord, et c'est très important que ce soit dans l'éco-conception ou l'analyse de cycle de vie, on va avoir cette réflexion sur la pensée sur l'ensemble du cycle de vie. Là, on va prendre une machine à laver. Donc, une machine à laver, donc, dans un premier temps, elle a besoin. Donc, tout d'abord, la machine à laver, elle existe que sous forme d'un plan, donc, dans la conception. Donc, au niveau de la conception, on n'aura besoin que des plans, des calculs, des ordinateurs. On ne va pas encore émettre des impacts. Au niveau de la production, ben, on va utiliser des matières. Ces matières vont être extraites. Dans le cas de la machine à laver, ben on aura des produits, des matières précieuses par rapport aux cartes électroniques. On aura des plastiques, des métaux ferreux, non ferreux. Donc ces matières-là, il faut les extraire, les transformer en différents composants. Donc dans toutes ces phases-là, il y aura un échange de flux. C'est-à-dire qu'on va récupérer, extraire des matières, on va utiliser de l'énergie, on va émettre des émissions dans l'air, dans l'eau, dans le sol, puisqu'on va utiliser des produits chimiques, etc. Au niveau de la fabrication, donc il y a deux niveaux. En général, il y a la fabrication du composant et après l'assemblage. En général, les différentes composantes, elles sont faites dans des pays très loin, soit en Asie, soit en Amérique du Sud, etc. Donc il faudra comptabiliser le transport pour amener ces différentes composantes au niveau de l'assemblage. Aujourd'hui, même à cause de la localisation, il y a quand même la partie assemblage qui reste en France. Donc ces moyens de transport, ça va être le train, ça va être l'avion, ça va être le bateau, ça va être train, camion et camion. Au niveau de l'assemblage, on aura une consommation énergétique, on va consommer des produits et on va émettre également des rejets en eau, des rejets des émissions dans l'air, etc. Ensuite, on va distribuer, on va engendrer les mêmes impacts au niveau du transport. On va utiliser ces produits, souvent on oublie quelque chose qui est assez important et qu'on a rappelé dans la présentation d'avant. Dans cette phase d'utilisation, quand on multiplie par le nombre de produits qui sont existants dans nos ménages, on a une consommation qui est assez importante. Aujourd'hui, ce type de produit, il est réglementé par la directive EUP, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette directive. Donc c'est pour réduire ou avoir une approche d'éco-conception sur les produits consommateurs d'énergie. Donc on essaye de réduire les impacts au niveau de l'utilisation et la veille des vieux machines. Mais il y a quand même s'il y a une consommation qui est moindre, multipliée par le nombre de produits qu'il y a dans le ménage, ça fait des impacts qui sont assez significatifs. Ensuite, au niveau de la fin de vie, on va devoir traiter cet appareil. Aujourd'hui, vous savez, tous ces appareils sont normés par la directive des 3 heures. Ça veut dire que la majorité de ces produits vont être réutilisés ou des parties recyclées ou ils vont aller en incinération avec récupération d'énergie. Il y a néanmoins quelques produits qui continuent à aller en centre d'enfouissement technique. Donc là, normalement, quand on fait la récupération et le recyclage, donc là, on boucle le cycle de vie du produit. Donc là, on est vraiment dans la pensée cycle de vie. Donc là, comme j'ai dit, donc chacune de ces étapes du cycle de vie, on a des flux qui vont rentrer et sortir de ce système-là. Donc, au niveau de l'éco-conception et au niveau de l'analyse du cycle de vie, on va s'intéresser à tous ces flux. Ces flux, non seulement ça va être des matières et de l'énergie, mais ça va être surtout tous les flux, toutes les substances qui rentrent dans ce système-là. Il ne faut pas oublier que même si un produit il a été pensé, éco-conçu, ou c'est un produit bio, etc., pardon, il n'y a pas d'impact zéro pour un produit.
J'ai juste une question. Pourquoi on exclut tout ce qui est conception du cycle? Parce que, par exemple, quand j'utilise mon ordinateur pour concevoir, je consomme de l'électricité. Pour stocker tous les plans de fonction, c'est un serveur, les données sont stockées en permanence.
On ne l'exclut pas, c'est tellement négligeable. On va rentrer tout à l'heure vraiment dans ce qui est la méthodologie d'ACV. C'est tellement négligeable par rapport à cette phase-là, la phase d'utilisation, qu'on ne le voit même pas. Mais on peut le prendre en compte. Mais en général, on le néglige parce qu'on fait de l'information supplémentaire à chercher, parce que justement les informations sur les serveurs, etc., c'est des données tellement compliquées que c'est difficile d'avoir ces données-là. Mais on va rentrer un peu plus loin dans le système. Toujours pour travailler sur cette idée, pourquoi intégrer la dimension environnementale dans la conception, je voulais vous montrer ce schéma-là. Donc là, on peut prendre exemple dans l'emballage que vous avez soit une bouteille, soit une bouteille de parfum ou une bouteille d'eau. Là, on a les différentes étapes de cet emballage. Donc la conception, elle va être faite soit en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois. Au niveau de la production, au niveau de la production, ce sera en quelques semaines. Au niveau de la distribution, ça dépendra. Où est-il assemblé notre produit, ce sera de quelques jours à quelques mois. L'utilisation, si c'est une bouteille, ce sera quelques jours. Et pour une bouteille de parfum, ce sera quelques mois. Et la fin de vie, ce sera en quelques jours. Alors, si on prend les différents cours, il faut savoir qu'au niveau de la conception, il y a jusqu'à 90% des coûts qui sont engagés. Donc seulement 10% sont réellement dépensés. Si on prend un peu plus au niveau des caractéristiques même de cet emballage, il faut savoir qu'à ce niveau-là, au niveau de la conception, on définit la majorité de ces caractéristiques. Donc, dans ces caractéristiques, il y a les caractéristiques techniques, sécurité, etc. Et il y a également les caractéristiques environnementales, donc la performance environnementale. Il faut savoir que seulement une fois la conception, on va émettre des impacts. C'est-à-dire qu'au niveau de la conception, tout à l'heure on disait, on va émettre quelques impacts liés aux ordinateurs, etc. Mais réellement, on va commencer à engendrer des impacts au niveau de la production. On va augmenter au niveau de la distribution parce qu'on saura un peu plus quel est le moyen de transport qu'on va utiliser. Ici, au niveau de l'utilisation, ben, on n'aura aucun impact. Et en fin de vie, ben, on saura quelle est la filière de fin de vie que notre produit va suivre. Donc là, on démontre l'importance d'intégrer les critères environnementaux dès la conception du produit. Je me dépêche parce que c'est un retard. Donc tout simplement pour vous rappeler la définition de l'éco-conception. Donc l'éco-conception, c'est une démarche qui est plutôt systématique, qui peut être faite systématiquement. Elle est préventive puisqu'elle se met en amont de la démarche. Donc quand on parle l'éco-conception, c'est réduire l'ensemble des impacts sur l'ensemble du cycle de vie. Donc on a cette notion des pensées de cycle de vie, cette notion multicritère, mais aussi la notion de fonctionnalité. On ne va plus penser au produit tel quel, mais on va penser à l'aptitude d'usage de ce produit. C'est pour ça que la démarche d'éco-conception, elle va permettre aussi de réfléchir à cette approche aussi d'économie de fonctionnalité. Donc un produit, il peut être bien un bien, un objet ou un service. Donc finalement, la démarche d'éco-conception, c'est une démarche d'amélioration continue qui permet d'améliorer la qualité écologique du produit. Donc juste pour vous rappeler, donc il y a différentes normes, je pense que je vous les rappelle, voilà. Il y a différentes normes qui aident ou qui supportent à mettre en œuvre cette approche éco-conception. Il y a la norme 14062, donc ce sont les lignes directrices. Il y a l'analyse du cycle de vie avec la 14040 et la 44, que je vais revenir plus tard. Mais il y a aussi tous les séries de normes liées à la communication. Et on va voir que dans l'éco-conception, la partie promotion-communication, elle est très importante. Donc là, retenez tout simplement la série de 14020. Il y a tout simplement, j'oublie ici, les Espagnols, ils ont lancé une nouvelle norme liée à l'approche produit. selon la norme 14001, c'est la 14006, qui devrait être dans un ou deux ans, enfin elle est en test, elle devrait être en vigueur en un ou deux ans. Bon, je vais passer très rapidement là. Là, c'était juste pour vous montrer qu'en dehors des aspects techniques, il y a quand même des aspects économiques qui poussent les entreprises à aller vers cette démarche. Souvent, il y a quelques années, et quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, on disait un produit éco-conçu est souvent plus cher. Il y a une étude qui a été faite par la CCI de Saint-Étienne qui est très intéressante et qui montre que la démarche, au contraire, est la même de profit à l'entreprise. Par exemple, cette pensée cycle de vie, ça va permettre aux concepteurs d'innover, à de réfléchir, à de penser aux produits autrement, c'est-à-dire en réduisant les matières ou optimiser au moins les matières qui vont mettre dans ce produit, utiliser des matières recyclées, que parfois elles sont moins chères, ça dépend des cas, d'utiliser des matières agro-sourcées, utiliser ou faire des produits plus simples qui sont monocomposantes et qui peuvent être recyclés ou valorisés en temps de vie plus facilement, donc le coût de traitement va être moindre, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, on va essayer d'optimiser à chacune des étapes, que ce soit au niveau de matière que au niveau du coût. Ici, je voulais voir avec vous sur ces différents produits, comme l'exemple d'Hugues, je voudrais prendre avec vous le jean. Je voudrais que vous me disiez quels sont les enjeux environnementaux pour vous par rapport à ces jeans. Quels seraient, selon vous, les impacts les plus importants?
Le transport,
l'utilisation d'eau pour.
La
colocation, le transport,
la production des produits chimiques
pour la teinture.
Pour la teinture,
d'accord. Oui, le lavage. Contrairement, donc, il y a cette phase d'utilisation, elle est très importante, puisque ça dépend de la durée de vie de votre jean. Mais on oublie souvent que une des phases les plus impactantes, c'est également la culture même du coton. La culture du coton, elle est très consommatrice d'eau. Donc souvent, et parfois, si ce n'est pas du bio, il y a beaucoup de pesticides, de produits chimiques, etc. Donc il y a également tout ce qui est lié à l'occupation du sol, parce que pendant qu'on cultive ce coton, on ne peut pas produire des aliments, etc. Donc vous voyez, on a bien ici des enjeux au niveau de l'utilisation, la consommation énergétique, consommation d'eau, de produits chimiques lors de l'utilisation, mais au niveau aussi de la culture de ces cochons-là. Je ne veux pas rentrer dans les autres. Donc vous voyez, pour pouvoir dire intuitivement, on sait quels sont les enjeux de ces différents produits. Mais par contre, souvent, on peut avoir des intuitions ou des a priori qui sont fausses. Donc pour ça, on va utiliser des outils d'évaluation. On peut avoir différents types d'évaluation, des outils d'évaluation. Il n'y a pas d'outil parfait, unique, universel. Les outils, ils sont là pour répondre à un besoin spécifique et à un niveau du processus de conception. Donc, on pourra avoir au niveau des outils seulement d'évaluation, des outils de niveau qualitatif. Donc là, dans ces cas-là, on sera plutôt en amont de la conception. Donc là, on n'aura pas encore fixé la quantité de matière, le processus de fabrication qu'on va réaliser, et ainsi de suite. Et on a également des outils plutôt quantitatifs. J'imagine que vous connaissez le bilan carbone, le contenu énergétique, etc. Donc ces outils-là, ils sont très grands, mais le problème, c'est qu'ils sont, ils ont une approche monocritère. C'est-à-dire que on va faire un diagnostic sur un impact sur l'ensemble du cycle de vie. Ça veut dire qu'on ne va pas regarder les transferts de pollution qu'il peut y avoir d'un impact à un autre impact. Là, par exemple, si on reste dans le jean, si on changeait le coton par du polyéthylène, ben, on va consommer moins d'eau, on va consommer moins de surface de sol, mais par contre, on va émettre toutes les émissions liées à l'extraction du pétrole, etc., si on changeait tout par du PET. Donc vraiment, l'outil d'analyse de cycle de vie, c'est le seul qui est assez robuste et qui permet de mesurer ces transferts de pollution d'une étape du cycle de vie à une autre étape du cycle de vie et d'un indicateur à un autre indicateur. Donc je veux commencer à vous expliquer l'analyse du cycle de vie. Donc tout d'abord, cet outil, c'est avant tout un outil de diagnostic qui est incontournable, notamment si on va communiquer ou si on veut être sûr que les choix qu'on fait, ils ne sont pas posés. Au niveau de l'évaluation, il faut savoir que quand je mets en amont de l'éco-conception, c'est un peu faussé parce que soit on va prendre un produit de référence qu'on connaît assez bien, on fait une évaluation et ensuite on fait les améliorations. Mais on ne peut pas faire une analyse de cycle de vie quand on est dans une approche de conception classique. C'est-à-dire qu'on n'a aucune connaissance du produit, on n'a pas de produit de référence. Par contre, si on a un produit de référence, l'ACV va permettre d'identifier les caractéristiques du produit. On va voir quels sont les points faibles, les points forts de notre produit. Et on va pouvoir identifier des axes d'amélioration. Donc il faut savoir que l'analyse du cycle de vie, c'est tout simplement un outil d'évaluation qu'on va le coupler à un autre outil d'aide à la préconisation, etc. C'est vraiment tout simplement de nous dire, on fait une photographie de notre outil et maintenant, nous, quelles solutions on va apporter pour améliorer ces produits-là. En aval, l'ACV sert pour beaucoup de choses. Donc, soit c'est un outil pour la communication, ça c'est au niveau de l'entreprise, soit elle aide également dans tout ce qui est être sûr qu'on est conforme à la réglementation par rapport à différentes directives, soit faire des choix par rapport aux politiques publiques, etc. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est l'analyse du cycle de vie? Donc cet outil permet de quantifier le plus globalement possible et le plus exhaustivement possible les effets potentiels sur l'environnement. Donc on parle bien des impacts ou des effets potentiels. Donc qu'est-ce que fait cette méthodologie? Elle va permettre de quantifier les flux qui rentrent et qui sortent de notre système, notre tube, et elle va permettre de les transformer ou de les traduire en un certain nombre d'indicateurs qui sont compréhensibles. Aujourd'hui, quand je parle des flux, quand on parle d'un produit assez simple comme une bouteille en PET, on a entre 500 et 2000 substances qui sont comptabilisées. Ce sont les flux qui rentrent et qui sortent du système de l'utilisation de la bouteille. Donc moi, en tant que non scientifique, je peux dire, je ne peux pas comparer la substance d'un gramme de plomb dans l'eau est beaucoup plus impactante qu'un kilogramme de CO2 dans l'atmosphère. Donc ces indicateurs, ils vont permettre de mettre les informations à un même niveau et de les comparer d'une façon plus simple. Vous me dites si je vous perds, si vous voulez poser des questions. Donc, avant tout, l'analyse de cycle de vie, donc je reviens à cette notion qui est très importante, elle va permettre non seulement donc, d'éviter les transferts de pollution d'une étape à une autre étape. Donc, là, par exemple, quand je veux utiliser de produits agro-sourcés pour les différents, par exemple pour une aile de voiture. Oui, c'est bien, je veux réduire les impacts, mais je veux transférer des impacts à la fin de vie. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune connaissance, on n'a pas encore de filières à faire rôder sur la fin de vie de ces agromatériaux. Là, c'était un peu l'exemple que je vous donnais sur le jean en coton. On voit bien qu'on passe de la consommation d'eau, la consommation d'une surface cultivable, à aux impacts, par exemple, tous les impacts liés à l'extraction du pétrole, etc. Donc, il faut savoir que une ACV est dépendante des objectifs. Une ACV que vous faites dans un cadre, un contexte temporel ou géographique donné, elle ne peut pas être transmise, utilisée dans un autre cadre. Les choix méthodologiques qu'on fait tout au long de l'analyse du cycle de vie dépendent de ces objectifs. Et bien sûr, toutes les données qu'on va aller chercher, toutes les informations qu'on va chercher, elles seront fondées également sur ces objectifs-là. Donc d'où l'importance de cadrer et de définir bien ces objectifs. Je me dis si je suis un peu bon. Là, je vais rentrer vraiment sur la méthodologie telle qu'elle. Donc, la méthodologie d'analyse de cycle de vie, elle est faite en quatre étapes. Cette étape-là, elle est pas dans la norme. Donc, je rappelle, donc la méthodologie, elle est normée par deux normes. La 14040, c'est les lignes directrices. Et la 14044, elle va expliquer, elle va aller un peu plus en détail sur les différents points. Donc, la première étape de l'analyse du cycle de vie, ça va être de définir les objectifs et le champ d'application. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Donc, dans cette phase, on va définir le cadre de notre étude, notre système, puisque, peut-être que j'ai oublié de vous le dire, vous l'avez compris, l'analyse du cycle de vie a une approche systémique. Donc, on va définir le système qu'on va étudier. Donc, je vais rentrer plus en détail. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'objectif de l'analyse du cycle de vie, c'est soit de travailler sur un produit et l'améliorer. Donc, on va comparer des composants, on va faire un bilan de ce produit, soit on va comparer différents produits, différents composants, différents indicateurs, etc. Donc, c'est avant tout un outil de comparaison. Mais pour ça, il va falloir définir les fonctions de ce produit. Donc, on a les fonctions principales, donc c'est le service rendu de ce produit, et souvent, il y a des fonctions secondaires qui sont importantes et qui doivent rentrer en compte de cette analyse. Donc, on peut comparer seulement si la fonction est l'équivalente. Il va falloir, comme on parlait tout à l'heure, déterminer une unité fonctionnelle et bien sûr les limites du système. Qu'est-ce que exactement une unité fonctionnelle? Donc, c'est le jargon de la méthodologie d'ACV. Une unité fonctionnelle, c'est tout simplement un indicateur ou une référence quantifiable sur les services rendus du produit, et sur lesquels on pourra comparer des choses qui sont comparables et sur lesquelles l'ensemble de flux ils seront rapportés. Est-ce que c'est clair? C'est bon, d'accord. Donc derrière cette unité fonctionnelle, il y a souvent un verbe, il y a une performance par rapport au produit, et parfois, pourquoi pas, une durée de vie, une façon d'utiliser, ou une façon de satisfaire le client, etc. C'est vraiment une phrase ou quelque chose qui permet de définir ce service. Je voulais vous donner quelques exemples. Apparemment, pour les chaussures, ce n'était pas la bonne unité fonctionnelle. Moi, je proposais parcourir X kilomètres avec les fonctions donc des protections, des sécurités, etc. Au niveau de la peinture, par exemple, ça sert à de recouvrir une surface de façon opaque. Après, on peut mettre les performances qu'on veut pendant une durée de vie. Pour une machine expresso, ça serait faire X tasses de café X fois dans la journée pendant X années. Et pour les aliments, par exemple, ce serait apporter X calories, X protéines, etc. Donc, vous voyez, on a vraiment cette notion de performance et de service rendu du produit.
Si tu peux revenir sur les unités fonctionnelles, nous, on les formule un petit peu différemment pour pouvoir comparer. Si je prends deux chaussures, par exemple, on ramènerait l'unité fonctionnelle parcourir 5 km. Et après, en fonction des capacités de notre chaussure à parcourir 100 ou 900 km, on diviserait cet impact par sa durée de vie.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, en fait, je l'ai mis, oui, c'est tout à fait. Ensuite, on va prendre en compte la durée de vie, puisque bon, là, l'exemple le plus clair, ça sera la peinture, puisque deux peintures différentes, elles n'auront pas la même qualité, donc la même durée de vie. Donc on va utiliser plus ou moins de peinture selon la qualité de cette peinture, et on mettra, on va peindre une ou deux ou trois fois de plus qu'une autre peinture. Je ne sais pas si c'était clair, mais oui, c'est l'objectif objectif de dire il faut qu'elles aient le même service rendu, en sachant que les durées de vie, la performance de plusieurs produits peuvent être différentes. Je ne sais pas si je veux vous rajouter. Donc, une fois qu'on a défini cette unité fonctionnelle, donc cette unité des références, on va définir des scénarios. On va dire, bon, par rapport à cette service rendu, qu'est-ce que je dois, quelles sont les matières que je veux utiliser, comment je veux transformer les matières, comment je veux les transporter, etc. Donc, on va décrire ces scénarios. On va aussi faire des hypothèses, parce qu'il y a des choses qu'on pourra avoir par rapport à nos sous-traitants, etc. Mais il y a des choses, on va faire des hypothèses sur un certain nombre de choses. Et ensuite, on va cadrer, on va délimiter les frontières de notre système. C'est-à-dire que là, on va se dire, de toute façon, on va étudier tout ce qui se réfère à cette unité fonctionnelle. Normalement, on ne peut pas, enlever des phases de cette analyse de cycle de vie. On le fait seulement si deux systèmes ou deux processus sont complètement identiques dans la comparaison. Mais par contre, on peut se poser la question, jusqu'à où je peux aller dans ma réflexion. Est-ce que je veux prendre en compte tous les impacts engendrés par la transformation et l'extraction de la matière, oui ou non? Est-ce que je veux prendre en compte les machines qui ont permis d'extraire ou de transformer les matières? Donc là, on est bien au niveau des biens d'investissement. Est-ce que je veux prendre en compte le tracteur qui a permis de labourer ma culture de coton, ainsi de suite. Il y a d'autres choses, et c'est là où on va parler de la négligeabilité. Dans la norme, on peut négliger jusqu'à 2% de matière par rapport au poids global du système étudié. Pourquoi ? Parce que quand on parle, je vous donne l'exemple d'un transformateur, il y a au moins 700 composants, dont des vis, des milliers de vis. Donc on ne va pas aller s'amuser à aller chercher tous les fournisseurs de chacune des vis. C'est beaucoup de travail pour quelque chose qui est négligeable. Au niveau des impacts, ça va être négligeable. Et par contre, on devra prendre en compte tout ce qui est lié aux substances toxiques. Donc ça, c'est obligatoirement de le rentrer en compte. Et tout ce qui est supérieur à 2%. Et on peut ainsi enlever, comme je disais tout à l'heure, tous les systèmes ou les processus qui sont identiques. Je donne l'exemple. Si j'ai deux cultures différentes et je compare deux types d'herbicides, je vais utiliser le même camion, je vais consommer la même quantité de carburant, Mais par contre, les pesticides, la quantité de pesticides et les pesticides, ils ne seront pas les mêmes. Donc je pourrais enlever de mon système la consommation de X litres de carburant. Parce que ce sera la même chose. Okay. Donc ça, c'est, on va limiter le système. Et on va faire, donc ce que je vais vous expliquer par rapport aux règles de coupure, c'est jusqu'à où on peut négliger certains aspects. Donc une fois qu'on a bien défini les objectifs de notre système, on a défini l'unité fonctionnelle, le système, le public visé, etc., on va faire le recueil des données et ce qu'on appelle l'inventaire du cycle de vie. Donc l'inventaire du cycle de vie, ça va être d'aller chercher tous les flux entrants et sortants de ce système-là. Donc là, je vous donne un certain nombre, enfin, c'est un schéma très simple, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher dans chacun de ces processus les flux entrants et sortants, qu'on va agréger à un certain nombre de substances. Pour une donnée de ce niveau-là, par exemple les données fournisseurs de notre, si on parlait du gène de notre toton, de notre fil de toton, ben derrière on a 400-500 substances qui ont été comptabilisées, qui sont rajoutées en différentes substances qui sont calculés par rapport au procédé de transformation, du tissage, etc. de notre gène. Donc on aura énormément d'informations. Normalement, un industriel, il n'a pas le temps, ni l'argent, ni beaucoup de données pour faire toutes ces mesurations-là. Donc, normalement, on peut avoir ces données qui sont mesurées in situ, et ça va être des données très, très faibles. Et sinon, l'autre possibilité, c'est d'utiliser des bases de données qui sont quand même reconnues, qui sont fiables, clairement décrites et régulièrement mises à jour. C'est-à-dire qu'ils ont une méthodologie de recueil de données. D'accord. Ok. Donc, donc, on va utiliser plutôt des bases de données généralistes. Si vous voulez, on en parlera après. Mais ce qui est important de dire de ces bases de données, c'est que peut-être on va réduire. Il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent se produire, mais on va réduire un peu les incertitudes liées à cette problématique des collectes de données. Une autre problématique qui est importante sur cet inventaire du cycle de vie, je vais passer très vite, mais c'est l'une des choses qui font que la CV est contestée, c'est cette règle d'allocation. C'est, on a une usine qui produit des perceuses et des fissoteuses. Les deux, elles passent exactement par le même type d'assemblage. Comment on va affecter les impacts de cet assemblage à la fissoteuse et à la perceuse? Je vous donne un exemple simple, c'est la vache. On ne peut pas produire une vache pour avoir du lait, enfin pour vendre du lait, pour vendre de la viande et du cuir. Comment on va affecter les impacts engendrés pour cette vache pendant toute sa durée de vie aux différents produits, au lait, à la viande, au cuir? Donc là, il y a différentes règles pour résoudre ces données-là. Un autre exemple, c'est sur les différents fibres. Si on prend les grands matériaux, il y a les fibres des chambres. Dans les fibres des chambres, on a les fibres longues, on a les fibres courtes et les poussières. Comment on va affecter les impacts liés, par exemple, de la culture de ces chambres à la fibre longue, à la fibre courte et à la poussière? Donc ça, c'est toute la problématique de l'inventaire du cycle de vie. Je vais passer très vite, mais c'est la partie la plus difficile, la plus longue en temps. La partie qui nous intéresse, c'est l'évaluation des impacts environnementaux. Donc une fois qu'on a collecté toutes ces données-là, donc c'est cette liste interminable de substances sur un produit assez simple, on a entre 3000 et 4000 substances. Donc on a une liste interminable de substances et on va les traduire sur, à un certain nombre d'indicateurs, comme les indicateurs tels que le trou dans la couche d'ozone, le smog, l'acidification, l'eutrophisation. Je ne sais pas si ces indicateurs vous parlent ou pas. D'accord, c'est bien. Donc il y a dans cette évaluation environnementale différents niveaux d'évaluation. Je ne veux pas rentrer tellement dans les explications, je voulais juste vous montrer ce schéma-là. Là, on a la liste interminable que je vous disais des substances qui sont comptabilisées dans votre système. Là, on a les quelques indicateurs qu'on a choisis d'identifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de définir quelle substance va avoir un effet sur quel problème environnemental. Par exemple, le CO2, le méthane, ils vont avoir un impact sur le changement climatique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les classifier sur chacun des indicateurs et on va les traduire. Puisque le changement climatique, vous savez bien, il est référencé par équivalent CO2. Ça veut dire que pour le méthane, on va déterminer quel est le pouvoir ou sa contribution sur le changement climatique par rapport à un équivalent CO2. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc là, on va faire, on a un premier niveau qu'on appelle les indicateurs mi-points. Donc là, on est toujours à une référence équivalent une substance. Là, l'équivalent CO2, donc ça peut être l'équivalent antimoine, etc. Et là, on est vraiment à la fin. Donc là, on est plus dans les dommages liés à un problème ou à un problème qu'on veut protéger. Là, vraiment, on trouverait les dommages liés à la santé humaine, aux écosystèmes, etc. Donc, tout simplement, cette traduction-là, ce schéma-là qui semble un peu compliqué, permet d'avoir des résultats de ces indicateurs-là ou ces indicateurs-là pour pouvoir interpréter des résultats. Donc, l'objectif et la partie plus importante de l'analyse du cycle de vie, c'est la phase interprétation. Souvent, elle passe très rapidement, puisqu'on passe beaucoup de temps sur cette phase recueil de données, mais on oublie souvent que c'est la phase la plus importante. Donc, on va identifier les points faibles et les points forts de l'analyse du cycle de vie, de la méthodologie elle-même. Il faut savoir que la CV, c'est une démarche itérative, qu'on va regarder tout le temps, on va redéfinir les objectifs, on va redéfinir l'exigence de laquelle se nous donner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer tous les niveaux de l'analyse du cycle de vie, la contribution de chaque étape du cycle de vie, la contribution de chaque composante par rapport à l'environnement et pour les principaux polluants et substances. Donc là, on va tirer les conclusions, expliquer les limites et apporter des recommandations. Donc ça, c'est la partie très importante. Quand on va publier les informations, on va contrôler la qualité. On va faire une analyse de la qualité des données, qui est importante, avec des indices de confiance. On va faire ce qu'on appelle une analyse de sensibilité. Tout à l'heure, on disait définir une unité fonctionnelle, ou donner des hypothèses, ou définir un scénario, n'est pas évident. Donc, on va jouer avec différents paramètres pour voir si on change un paramètre, est-ce que les résultats, il y aura un écart assez important. On va faire également ce qu'on appelle des analyses d'incertitude. Donc, c'est avec une méthodologie, la méthodologie Monte Carlo, pour être sûr que les résultats, ou au moins la tendance de nos résultats, ils sont valables. Je voulais juste montrer quelques exemples. 2 minutes, je vais choisir. Je voulais vous montrer trois exemples que je fais avec mes étudiants de master. Non, celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. C'est pour comment on peut s'en servir de cet outil de la CFV dans la conception des produits.